Emmanuel Linco, bonjour.
Bonjour.
Alors, avec Pink al pouvoir en Chine 1979-2009, une histoire culturelle, vous signez, Emmanuel Linco, le premier ouvrage en français sur le sujet.
Oui, c'est la première synthèse sur les arts contemporains chinois, sur la peinture en particulier, en français et peut-être aussi en américain, parce que il n'y a que deux historiens à s'intéresser depuis longtemps justement au phénomène artistique chinois dans ses rapports au pouvoir. C'est Wu Hong à Chicago et moi-même. Et d'ailleurs, nous collaborons sur plusieurs projets. Et bon, il était important effectivement de publier cet ouvrage qui a maintenant un peu plus d'un an déjà, hein, 2010, hein, mais d'autres vont suivre vraisemblablement. Et donc c'est un ouvrage qui correspond à cette période, bien sûr, des réformes politiques. Hein, et c'est là justement tout l'intérêt de voir comment cette scène s'est développée, comment un marché de l'art est né dans le contexte des réformes initiées par Deng Xiaoping.
Alors, les liaisons dangereuses entre l'art et le politique sont vieilles comme le monde, aussi bien en Asie qu'ailleurs, mais en Chine, elles ont une résonance particulière.
Oui, il y a peut-être là, je dirais, un tropisme culturel, sans vouloir essentialiser mon propos. On le voit à travers l'exemple d'Ai Weiwei, dont une exposition est consacrée en ce moment même au jeu de paume. Même des artistes pourtant issus de la nomenclature A, en délicatesse certes avec le régime, c'est le cas de la famille d'Ai Weiwei et de son père, Ai Qing, le francophone et poète chinois, eh bien, il y a sans doute une stratégie du biais auquel ont eu recours les artistes chinois sur la longue durée et quelque chose de très particulier, de très intéressant, qui les apparente au pouvoir et en même temps une volonté, bien sûr, de s'en démarquer. Alors cela se traduit notamment en art par des allégories tout à fait particulières qu'il est intéressant, bien sûr, d'analyser, soit sous la forme effectivement de peinture, parce que c'est le médium, je dirais, le plus valorisé sur la longue durée dans l'histoire culturelle chinoise, depuis au moins les Song, soit plus récemment et surtout à partir des années 90, sous la forme de performances ou bien de vidéos, que sais-je encore.
Alors avec ce livre, Emmanuel Linco, j'ai eu l'impression que vous vous situez dans la lignée du sinologue Timothy Brook et de son remarquable ouvrage Le Chapeau de Vermeer. Qui vous a inspiré?
Alors ça me fait très plaisir, ce que vous dites là, parce que Timothy Brook, c'est quelqu'un que j'admire profondément, que je n'ai rencontré qu'une fois et que j'ai lu, bien sûr, et notamment ce livre magnifique, Le Chapeau de Vermeer, qui, disons-le d'ailleurs à vos auditeurs, est un ouvrage qui a trait à l'histoire à travers la peinture de Vermeer, à la pré-mondialisation, c'est-à-dire comment, à travers l'atelier d'un artiste des Flandres, eh bien, l'on arrive à percevoir l'évolution du monde, hein, donc au XVIIe siècle. C'est tout à fait intéressant, et surtout cet entre-deux qu'essaye de mesurer Timothy Brook entre la Chine et l'extrême Occident, donc monde arabo-persan, etc. Donc, tout à fait passionnant. Alors non, il ne m'a pas inspiré outre mesure, mais Timothy Brook, effectivement, d'un point de vue disciplinaire, je dirais, s'inscrit dans un courant qui ne porte pas ce nom-là du côté de la sinologie française, parce que il n'existe qu'à l'état embryonnaire, et je suis l'un de ses représentants. Il s'agit de l'histoire culturelle. Mais Timothy Brook, à sa manière, fait de l'anthropologie culturelle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'un point de vue des méthodes, mais effectivement, l'on se rejoint de ce point de vue-là. Oui.
Et bien sûr, la sociologie est indissociable de l'histoire de l'art.
Ah, elle l'est en tout point, hein, c'est ce que disait Lévi-Strauss, tout bon sociologue est un historien et tout bon historien est un sociologue, assurément. C'est-à-dire que le parti pris, si vous voulez, de cette discipline, et elle vaut pour n'importe quel objet a priori, hein, ça pourrait très bien être l'histoire culinaire récente de la Chine, ou plus ancienne aussi, pourquoi pas, vous avez trois pôles structurants pour comprendre justement un phénomène socio-historique. La création, la diffusion et la réception. Et autour de ces trois pôles, il s'agit de voir comment, à travers l'œuvre d'un artiste ou d'un phénomène artistique, donc un groupe d'artistes, c'est vrai, en particulier pour les années 80, comment il y a une circulation justement à travers ces trois pôles. Et c'est en fait une sorte d'adaptation sur un mode de géométrie variable, hein, c'est-à-dire que l'écart entre ces trois pôles peut-être plus ou moins grand, c'est-à-dire peut s'intégrer aussi bien à l'espace d'un quartier que celui d'une ville, une grande conurbation chinoise, voire entre plusieurs villes chinoises, voire à l'échelle du monde. C'est ce que l'on voit notamment à travers le phénomène Robert Rauschenberg en 1985 en Chine, que j'analyse justement dans cet ouvrage, qui a eu un impact tout à fait déterminant. C'est-à-dire que vous avez un artiste américain qui arrive en Chine, qui organise une exposition, qui prend goût à la Chine. Il devait y rester 3 semaines, il y reste 6 mois. Donc c'est tout à fait phénoménal. Il rencontre énormément d'artistes. C'est un peu... Il y a eu un précédent d'ailleurs dans l'histoire américaine. C'est un peu comme si John Dewey avait rencontré justement ses pères chinois. Hein, et il y a une sorte de goût à la Chine, une sorte d'osmose, de communion, d'échange, et en même temps un langage de dupe. C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que Rauschenberg est un révélateur d'une tradition chinoise réinventée. C'est-à-dire que des artistes chinois constatent à travers l'œuvre de Rauschenberg que ce qu'il fait lui, c'est ce qu'ils ont fait eux, avant la révolution culturelle. Donc un art qui privilégie le geste, qui privilégie l'intention, des choses qui entrent en résonance finalement avec le fond culturel artistique chinois. Donc il y a un retour non pas à l'autre, mais un retour au même. C'est ça qui est très intéressant, et donc un décalage dans la réception et l'interprétation de Rauschenberg. Voilà, entre autres, l'un des exemples étudiés à travers ce livre qui montre aussi que les années 80 participent à un essor d'une forme de nationalisme culturel.
Est-ce qu'on peut dire qu'il existe une similitude artistique ?
Alors c'est ce que je développe, et en même temps je n'ai peut-être pas pris suffisamment de précautions dans la définition de ce terme, qui est un emprunt à la négritude, hein, on le sait bien, mais qui désignerait par là même, dans le contexte de la globalisation, non pas un attachement à un sol, mais plutôt à une vision partagée de valeurs culturelles chinoises et d'une des langues chinoises qui forment, au sens grec du mot, une koiné, c'est-à-dire une communauté culturelle, et donc peut se réclamer de la similitude, évidemment, aussi bien un Africain qu'un Français ou un Américain ayant en partage la culture chinoise. Hein, évidemment, cela n'a rien à voir avec une filiation sanguine ou consanguine dans le rattachement d'un individu à la culture chinoise. Et ce que l'on peut constater, mais je ne suis pas le seul à le dire, hein, Shu Meishe de l'université de Berkeley le dit aussi, c'est la formation, effectivement, notamment dans ce vaste espace qu'est l'Asie Pacifique, de communautés culturelles ayant en partage le chinois. On le voit notamment dans l'industrie du film, hein, c'est-à-dire qu'on a maintenant, comme préalable demandé à des acteurs ou des actrices indonésiens ou malais, la nécessité pour eux ou pour elles de s'exprimer convenablement en mandarin pour tourner un film qui sera diffusé soit sous la forme de série B ou de grands films de maître, hein, notamment pour le cinéma taïwanais, de part et d'autre des deux rives du Pacifique.
La création artistique chinoise est-elle soluble dans l'ouverture et la mondialisation ?
Alors cette création est intéressante en tant que révélateur aussi de formes de résistance identitaire. C'est-à-dire qu'on a pu voir au début des années 80, c'est souvent la critique qui a été adressée à l'encontre des artistes chinois, une forme d'acculturation. Ils font des choses que les Occidentaux ont fait depuis les années 60, y compris dans le domaine des performances, etc. On se rend compte que non, c'est-à-dire qu'il y a assimilation, mais souvent désacculturation au final. C'est ça qui est très intéressant, et cela se traduit souvent par une forme de tradition réinventée, notamment convocation de tout ce fond culturel taoïste à travers l'interprétation de l'image en milieu taoïste, hein. Je pense à Lao Tzu, Ta Xiang Wu Xing, la grande image n'a pas de forme, ou bien le Chuang Tzu, le meilleur des peintres est celui qui ne peint pas. Donc il y a une justification d'un certain nombre de performances ou autres par un discours également. Et en cela, justement, il y a une caractérisation de ces réalisations artistiques qui sont spécifiques, qui ont leur propre authenticité, mais qui en même temps nous parle, c'est-à-dire qu'elle véhicule aussi un sens universel. On le voit bien à travers l'œuvre d'Ai Weiwei, hein. Ce n'est pas un artiste d'un chinois occidentalisé, c'est encore autre chose. Et de ce point de vue-là, la globalisation en art touche bien sûr la Chine, et la Chine est l'un des laboratoires sans doute les plus intéressants d'un point de vue de l'observation, pas plus ni moins par ailleurs a priori que l'Inde ou le monde arabo-persan, mais c'est l'un des mondes où il y a peut-être paradoxalement du fait même de la nature dictatoriale du régime de Pékin, des résistances sans doute plus subtiles dans le dispositif même que se créent les artistes pour à la fois traduire en actes et d'un point de vue de l'invention de forme ou de discours, une pensée qui n'est pas une pensée orthodoxe, qui n'est pas une pensée affiliée à celle du régime.
Qu'appelle-t-on la peinture des cicatrices ?
À la peinture des cicatrices est née dans la continuité de la littérature dite du même nom, hein, c'est-à-dire à la fin des années 70, dès lors où ces artistes et écrivains chinois essayent de penser la révolution culturelle, hein, après le traumatisme de 10 ans, les années 66-76, et donc il y a eu un courant de type Sungun, hein, y compris dans le domaine des arts. Mais il est assez marginal par rapport à l'explosion artistique qui a commencé notamment autour du groupe Sing Sing, le groupe Étoile Étoile, à Pékin, et qui a donné lieu ensuite à toutes sortes d'avatars que l'historien Gao Minlu a bien étudiés, aussi bien dans la capitale qu'en province, et surtout à partir du milieu des années 80, en 85 en particulier, préparant par là même et posant par là même les jalons d'une très grande exposition, hélas censurée en janvier 1989, qui a eu lieu au Chongguo Meishuguan, donc l'équivalent, si vous voulez, sur le plan institutionnel du jeu de paume à Pékin.
Alors, dans les terminologies un petit peu mystérieuses pour nous, la peinture de néo-lettrés.
C'est un courant, effectivement, que les galeristes occidentaux, souvent, ont boudé pour des raisons liées à l'idéologie ou des partis pris esthétiques. Mais c'est un courant, en revanche, très largement reconnu en Chine même et dans le monde chinois, y compris au Japon, qui a connu son plein essor au début des années 80. C'est-à-dire au moment où, pour des raisons non moins idéologiques, l'on redécouvre là aussi une tradition sur le mode du néo-confucianisme, donc recours aux encres, etc. Alors soit ce sont des pastiches, effectivement, des grands maîtres hein, que l'on connaît tous, Wu Daozi, Feng Quan, que sais-je encore, soit il s'agit véritablement, là encore, d'une réinvention d'une tradition et une façon pour, d'un point de vue de la posture, pour ces artistes se réclamant de ce courant, d'affirmer une identité justement chinoise en réaction contre des courants qui seraient, d'après eux, davantage affiliés à l'Occident et à son idéologie.
Quelle différence y a-t-il entre le réalisme socialiste de l'URSS et celui de la Chine quand Mao prenait l'art au service du peuple ?
Ça, c'est une question très très intéressante et qui, là aussi, pour des raisons non moins idéologiques, a été et reste encore largement boudée. Le réalisme socialiste en art est né en 1934. Il semblerait que c'est Staline lui-même qui en aurait prononcé les modalités. Hein. Le réalisme socialiste, d'ailleurs, dans la formule même, montre bien toute l'ambiguïté de ce courant d'un point de vue de son application idéologique, parce que il s'agissait de mimer d'après nature la nature, hein, donc on est dans le contexte finalement initié par la Renaissance italienne, celui de la mimesis, la représentation d'après nature, et en même temps il faut que cette représentation le soit d'après des modalités socialisantes. Donc ça donne finalement des choses assez étonnantes, hein, on le sait bien, et dans tous les domaines, parce que aussi bien dans le domaine de la littérature que celui de la musique, etc., les grands noms soviétiques, compositeurs, ont été marqués par ce phénomène, hein, Shostakovich, Prokofiev, bon. Et c'est un courant qui s'est internationalisé, du fait évidemment de l'internationalisation de l'idéologie communiste, et en Chine en particulier, mais avec voulu par Mao dès 1942 à Yan'an. Ce sont ces fameuses causeries de Yan'an, où il se prononce sur les arts en régime socialiste chinois, eh bien, se sont sinisés, au même titre que l'idéologie maoïste. Alors, ça donne des choses assez étranges, hein, qui restent aujourd'hui encore assez marginalisées, mais qui sont tout à fait intéressantes et qui montrent que là aussi, il y a eu une réinvention d'un style, par ailleurs, très, très conventionnel, d'après justement tous les critères socialisants, mais quelque chose de très intéressant qui montre que l'impact a été sans doute côté chinois beaucoup plus important que côté soviétique, parce que avec le fait d'épouser cette idéologie, il s'agissait de rejeter d'un revers de la main aussi toute une tradition qui était celle du recours au rouleau, parfois aux encres également, au profit des acryliques, des grands formats et du châssis également. Et en soi, l'impact a été sans doute très très important d'un point de vue de la révolution également du regard et par le choix et la symbolique des couleurs aussi. Le rouge vif, bien sûr, couleur de la révolution qui jusqu'alors n'entrait pratiquement pas en ligne de compte dans la position picturale chinoise. Bon. Alors évidemment, c'est un courant aujourd'hui vilipendé, hein, mais qui a posé également les jalons de quelque chose de tout à fait nouveau et dont les grands noms de l'art contemporain chinois, et notamment Ai Weiwei, même s'ils s'en défendent parfois, ont été, d'une manière ou d'une autre, inévitablement inspirés, marqués.
Qu'est-ce que l'Occident a réellement apporté à l'art en Chine ?
Ben, l'Occident, il ne faut jamais l'oublier, c'est l'Occident premier de la Chine, hein, c'est-à-dire vers l'histoire des routes de la soie, c'est l'Asie centrale et c'est l'Inde. Donc c'est respectivement les arts inspirés marginalement, là encore, d'une tradition nestorienne, mais quand on est dans les sanctuaires chinois, du tronçon chinois de la route de la soie, Biziklik, Turfan, Kizil, même Dunhuang, l'on voit cette influence, influence aussi lointainement zoroastrienne, mais aussi et surtout bouddhiste, donc indienne. Et donc le premier Occident pour la Chine, c'est par le truchement du bouddhisme, hein, en particulier, et de ses arts, c'est-à-dire un art profondément religieux, contre lequel, d'ailleurs, s'est insurgé l'art qui a prévalu sous la dynastie suivante, celle des Song, hein, puisque cet art bouddhiste s'est développé essentiellement durant la grande période du haut Moyen-Âge, la dynastie des Tang, et donc sous les Song, en réaction contre cette période profondément marquée par les thématiques religieuses, eh bien, l'on fait tout autre chose, c'est-à-dire de la peinture à encre, et l'on privilégie les fameux shansui, c'est-à-dire les paysages de montagne et d'eau, littéralement. Hein. Donc, ne jamais perdre de vue cette perspective, hein, historique, savoir donc le rapport entre la Chine et son environnement proche, l'Inde et l'Asie centrale, et enfin par rapport à l'Europe, alors de loin en loin, il y a eu bien sûr cette influence très, très limitée malgré tout des peintres jésuites, hein, dont on a vu récemment au Louvre un certain nombre d'œuvres, hein, les œuvres du père Castiglione par exemple, qui montre des poses équestres des empereurs de Chine, bon. Mais le choix des matériaux également, hein, bon, ça c'est particulièrement intéressant. L'introduction aussi de la perspective inventée par la Renaissance italienne. Mais les choses vont changer véritablement à partir de la fin du 19e, début du 20e siècle, c'est-à-dire quand nos premiers artistes chinois, Fu Baoshi, Su Beirong, Lin Fengmian, Liu Raisu, se rendent à la capitale mondiale des arts, savoir Paris, et donc sont profondément marqués par une certaine peinture française, d'abord les impressionnistes, dans une moindre mesure pour certains d'entre eux les fauves également, et il en est resté quelque chose. Et en même temps, c'est là où l'on voit dans l'histoire des relations culturelles internationales, toujours ce miroir aux alouettes, en fait, qui ne cesse de ressurgir, c'est-à-dire que ces artistes ont été en empathie avec ces courants artistiques français parce qu'ils y retrouvaient une part d'eux-mêmes, y compris dans l'organisation très politique du système des beaux-arts français, qui les renvoyait aussi à un système jacobin centralisé, qui est celui, bien sûr, des grandes académies des beaux-arts chinoises, qui ont été d'ailleurs Après la réforme initiée par Tsai Yuanpei durant les premières années de la République, dans les années 20, remaniée sur le modèle républicain français. Donc il y a un aller-retour constant franco-chinois qui est assez intéressant, mais ne pas sous-estimer l'apport justement français dans cette peinture chinoise première manière, et réciproquement l'apport lointainement chinois par le biais notamment du Japon, auprès d'artistes français, impressionnistes, ou surtout, surtout d'entre tous, Cézanne, bien sûr, hein, qui détruit la perspective et qui, à sa manière, comme Duchamp, vont créer finalement une toute autre trajectoire des arts occidentaux. Et on peut y voir peut-être lointainement une influence chinoise, en tout cas une réinvention de certaines traditions chinoises.
Alors le public chinois aime l'art contemporain et s'y intéresse parce que c'est une manière de dire des choses impossibles par ailleurs ou simplement pour des raisons esthétiques ?
Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la peinture chinoise en particulier, c'est une façon de renouer là aussi avec une culture séculaire, c'est-à-dire que la peinture en tant que médium privilégié, c'est une façon de renouer avec le mythe du lettré. Celui qui peint, celui qui calligraphie, bref, celui qui maîtrise l'art du pinceau, c'est celui qui incarne l'excellence, hein, la réussite sociale, etc. Donc c'est une façon, bien sûr, d'assurer une continuité sur le plan historique et culturel. C'est une façon, effectivement, d'exprimer silencieusement, par des gestes, ce qui ne peut être dit en parole. Absolument, hein, ça c'est évident. Mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer, et c'est l'apport justement de ce livre, Peinture et pouvoir, une histoire culturelle de la Chine, quelque chose de déterminant. À partir de 1989, nombre d'artistes chinois refusent de cautionner ce mythe qui apparente le lettré justement à une notion de trop grande proximité avec le pouvoir, parce qu'il est dépositaire d'une culture d'État que rejettent justement ces artistes pour cause de Tiananmen et des répressions de Tiananmen, si bien qu'à partir de 1989, on assiste à une atomisation très forte de la scène culturelle et artistique chinoise. Il ne s'agit plus de groupes de plusieurs, parfois centaines d'individus qui s'expriment d'un commun accord, mais de petits groupes ou des individus totalement atomisés et qui vont avoir pour certains recours à d'autres médias que la peinture, parce que la peinture nous renvoie justement à un patrimoine que paradoxalement une partie justement de cette génération chinoise rejette.
Alors justement, les années 90 ont été marquées par un goût pour l'alternatif et l'underground, et notamment à Pékin. C'est dans la lignée de ce que vous expliquez tout de suite.
Oui, et en même temps, c'est là où l'on voit, non pas pour cause d'occidentalisation de la Chine, qu'il y a dans la géographie mondiale des arts des phénomènes, sinon communs, tout au moins parallèles, mais toujours en décalage d'un point de vue temporel, parce que cette dénonciation de la peinture, l'Occident européen et nord-américain l'a connue également à partir des années 60. Hein. C'était l'objet de cette remarquable exposition qui avait eu lieu au musée du Louvre, organisée par le commissaire Régis Michel. Et il faudrait rêver d'une exposition similaire qui montrerait justement les étapes de la dénonciation de la peinture comme... il parlait de glu patrimonial, hein, c'est-à-dire donc quelque chose effectivement d'une tradition, d'un surcroît de tradition qui inhibe finalement les comportements et toute forme de créativité au final.
Alors quelque chose de particulièrement chinois, c'est la manière de se regrouper dans des villages d'artistes, et tout ça a commencé à Pékin justement dans les années 90.
Alors c'est la convergence de deux phénomènes. Le premier, plus récent, d'influence communiste, c'est-à-dire toute entité, les groupes, les tunjong, hein, comme on disait à l'époque maoïste, regroupent plusieurs individus. Bon, et puis cela en fait s'est créé sur une strate, quant à elle beaucoup plus ancienne, les huiguan, hein, c'est-à-dire donc les sortes de guildes d'entraide, hein, comme l'Occident par ailleurs en a connu. On pense aux Hans, hein, et donc dans ces villages d'artistes du nord-est de la capitale notamment, mais on retrouve un phénomène similaire à Chengdu dans le Sichuan aussi. Vous avez des artistes de telle ou telle origine, hein, par province, qui se regroupent entre eux, soit par affinité élective, soit parce que ils ont en partage des langues chinoises que les les locaux ne maîtrisent pas nécessairement. Et il y a là aussi une forme de réappropriation, de forme d'entraide qui prévalait avant même la période communiste et qui se reconstitue effectivement dans la banlieue de Pékin notamment.
Et qui continue toujours aujourd'hui. Alors, le modèle indépassable de l'artiste politique et résistant aujourd'hui, c'est Ai Weiwei.
Oui et non, parce que à sa décharge, il est assurément symptomatique, mais déjà dépassé. C'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, bon, c'est une tarte à la crème, hein, si vous pouvez me permettre l'expression. C'est-à-dire que dès lors où une institution, quelle qu'elle soit, récupère un artiste, où qu'il soit, ça veut dire qu'il appartient déjà à l'histoire. Et c'est le cas déjà d'Ai Weiwei, hein, quoi qu'en dise le régime communiste chinois. Alors, il est vrai que la majorité, semble-t-il, des artistes chinois semblent ne pas vouloir suivre la démarche très offensive, très radicale d'Ai Weiwei dans sa dénonciation par les réseaux sociaux, justement, d'une situation qui est celle notamment des sinistrés du tremblement de terre du Sichuan en 2008. Mais il est en même temps, je pense, symptomatique d'une période déjà terminée, déjà révolue, c'est-à-dire que il a posé les jalons de quelque chose que pressentait déjà en amont la culture chinoise, mais mis en acte précisément par Ai Weiwei, c'est-à-dire que le meilleur des artistes, c'est celui qui n'agit plus en tant qu'artiste, mais en tant que citoyen libre et totalement désengagé de toute forme de rendu esthétique ou de réalisation esthétique. Hein. On a quelque chose finalement là aussi qui s'apparente par d'autres trajectoires, si vous voulez, à ce que l'on a connu à travers l'exemple de Duchamp ou bien dans une moindre mesure de Warhol. Hein.
Sauf que lui prend quand même beaucoup plus de risques que Duchamp. Et on se pose la question et on se dit, est-ce que la dissidence artistique, du coup pour lui, c'est pas un bon filon ?
Oui, il y aura très certainement une forme de récupération, et en bon politique, Ai Weiwei comprend bien aussi que la seule façon pour lui de résister et de se protéger, c'est de médiatiser à outrance son action, hein, par le recours aux réseaux sociaux, mais aussi par le développement des expositions qui lui sont consacrées de par le monde, incontestablement.
Oui, c'est un homme de communication, mais quel est son rôle réel dans la perception de la Chine à l'étranger ?
Ah, je crois qu'il est très important. Il y a un phénomène à Ai Weiwei, on peut le voir à travers la presse, hein, incontestablement. Depuis un mois, la presse française notamment, c'est tout à fait surprenant. Il y a une création Ai Weiwei, une création médiatique Ai Weiwei, incontestablement. Sans apporter le moindre jugement de valeur, on peut constater que c'est un fait social, véritablement. Donc Ai Weiwei survit à tous les tracas administratifs et politiques que lui pose le régime de Pékin, et se survit à lui-même et à travers et au-delà des frontières chinoises, c'est-à-dire en France ou en Allemagne, en tout cas en Occident, oui, incontestablement.
Alors en dehors d'Ai Weiwei, est-ce que les artistes chinois pratiquent l'autocensure ?
Beaucoup, beaucoup. Et la première des autocensures, je dirais la plus ancienne d'un point de vue des postures, est d'adopter le silence ou le retrait. Et ou alors, on a des exemples, hélas, très nombreux, pour l'année 1966 en particulier. Je pense à Tzu Lei, hein, que ce soit des écrivains, des traducteurs, hein, ou bien Lao She aussi, c'est le suicide. Hein, le suicide dans la culture, dans les cultures du monde chinois, Japon y compris, bien sûr, comme l'avait montré admirablement Maurice Pinguet dans Le suicide volontaire au Japon, est une revendication politique et de contestation politique et identitaire forte. Hein.
Alors vous nous dites dans votre ouvrage que le kitsch que les Chinois affectionnent particulièrement a quelque chose à voir avec le désenchantement du monde.
Oui, c'est une notion également que j'ai beaucoup travaillée parce que dans tous les catalogues consacrés à l'art contemporain chinois produit par des Occidentaux, faut-il le rappeler, dans les années 90, on disait voilà, c'est un art kitsch. Bon. En même temps, c'est une notion datée, historique. Le kitsch correspond à l'art sécessionniste viennois, hein, de la fin du 19e, début du 20e siècle. Donc c'est également le symptôme, si vous voulez, d'un phénomène de rupture par rapport à une situation hantée. Et en même temps, j'ai beaucoup travaillé avec l'historien Wu Hong justement sur cette notion. C'est une notion extrêmement ambivalente dans le contexte chinois, parce que elle nous renvoie par ailleurs à tout un courant artistique qui s'est développé très tôt, dès le Moyen Âge, cultivant l'art délibérément de la maladresse, zhuozuo comme disent les Chinois, de la folie également, mais d'une folie non pas inspirée, mais plutôt ce que disent les Chinois, le kuang, hein, c'est-à-dire une forme de déviance qui, à la fois d'un point de vue de la posture, marginalise et protège. Et le kitsch, c'est aussi cela, c'est une façon de se protéger et en même temps de créer par le recours à des couleurs mièvres ou des matériaux également qui ne sont pas considérés comme nobles, mais qui rendent sensible justement leur toucher. Je pense à tout ce kitsch qui s'est développé d'un point de vue des articles de consommation auprès des jeunes, hein, les petites poupées, les petites nounours, etc. C'est tout à fait révélateur par ailleurs d'une société en souffrance, en réalité, hein, qui est profondément marquée par la révolution industrielle que connaît la Chine depuis plus de 30 ans maintenant, et qui provoque des dégâts psychologiques assez considérables. Et donc, le kitsch, c'est une façon aussi de se rassurer et de créer un trait d'union, peut-être, avec ce que l'on quitte et ce qui est encore l'inconnu.
Quels sont les sujets de prédilection des artistes chinois en ce début du XXIe siècle?
C'est, je dirais, pour être trivial, l'argent, mais c'est essentiel, c'est absolument essentiel. Ce sont précisément des gens très polyvalents d'un point de vue de leur formation, formation à la chinoise et formation à l'occidentale, d'un point de vue de la maîtrise de tous les arts, mais aussi, pour la plupart d'entre eux, remarquables tacticiens en tant que marchands, véritablement, et autopromoteurs de leur propre œuvre. Et en cela, justement, ils renouent tout à fait avec une culture chinoise que l'on connaît bien, qui est une culture de stratège, véritablement. Ce sont des gens qui savent remarquablement penser les configurations, les tendances à venir. Et donc s'intéresser à l'art en Chine, c'est peut-être, comme le disait si bien Nabokov, une façon d'interroger l'avenir aussi, hein. Il y a peut-être plus d'intérêt pour un observateur au quotidien de la Chine à questionner des artistes et se rendre dans leurs ateliers, que d'interroger un homme politique chinois ou un officier de l'armée chinoise, si tant est que l'on puisse le rencontrer aisément, bien sûr. Mais je veux dire par là qu'il y a une possibilité à travers les signes qui sont agencés justement sur la surface d'un tableau ou bien sous la forme de performance ou autre, de la matière justement pour comprendre les grandes tendances qui se dessinent, sans vouloir faire de la divination évidemment, il ne s'agit pas de faire cela, mais en tout cas de sentir les configurations qui sont en train de se dessiner.
Vous parlez aussi dans votre ouvrage des rapports entre la peinture et le cinéma.
Oui, considérablement, à travers notamment une œuvre que j'analyse et que je connais bien, celle de Tia Zhangke et de son ami Liu Xiaodong, hein, qui ont co-réalisé un documentaire autour du fameux film qui a trait à l'histoire du barrage des Trois Gorges, Still Life, et ce documentaire qui met en abîme en définitive Still Life et son propos s'appelle Dong. Hein. Et c'est un symptôme parmi beaucoup d'autres justement de ce rapport entre les différents mondes-là, notamment le cinéma et la peinture. Oui.
Quand est né le marché de l'art contemporain en Chine?
Ah, c'est une invention occidentale. Et il est né dans les années 90, pas avant, même s'il y a eu des précurseurs, hein, je pense à Courtyard Gallery à Pékin en particulier, mais qui était le fait soit de sino-américains, soit d'occidentaux. Et c'est un phénomène finalement très très récent. Et encore une fois, l'art contemporain chinois procède d'une invention occidentale au départ et est très certainement lié d'un point de vue des filiations à un intérêt d'abord des galeristes occidentaux pour les arts soviétiques finissants de la période des années 80, donc les années Gorbatchev ou même un peu avant, les années 60 déjà, on pense à Komar et Mélamide, Kabakov, Bulatov également, des artistes qui déjà dénonçaient le système, et il y a eu une sorte d'exotisme communiste d'un certain nombre de galeries occidentaux, soviétiques d'abord, pour les arts soviétiques de contestation, et ensuite, dès lors où le système soviétique s'est effondré, eh bien, cet exotisme s'est porté un peu plus loin, c'est-à-dire vers la Chine, hein. Il y a véritablement une filiation, on y revient encore, entre Russie et Chine d'un point de vue de l'intérêt que portent les Occidentaux sur la longue durée pour les arts, respectivement de ces deux pays.
Et du coup, ce sont les étrangers qui, les premiers, collectionnaient l'art contemporain chinois. Alors aujourd'hui, les choses ont changé. Qui achète en Chine des œuvres d'art?
Alors, les choses effectivement ont changé parce qu'on a de plus en plus de collectionneurs chinois qui achètent de l'art contemporain chinois. Et cela a commencé d'abord auprès des collectionneurs situés sur les marges de la Chine, d'abord à Taïwan, ensuite à Hong Kong. Hein, donc ça, c'est très intéressant. C'est le galeriste Johnson de la galerie Art qui, au début des années 90, a provoqué justement un engouement d'abord à Hong Kong, ensuite à l'étranger, pour cet art contemporain chinois que l'on connaissait encore très mal et qui a déterminé ou contribué largement à la définition des cotes justement de ces artistes. Et depuis lors, on le sait, ces cotes ont littéralement explosé, hein. Zhang Xiaogang en particulier se vend à 2 millions de dollars, donc aussi cher et parfois plus cher même que les valeurs entre guillemets sûres du marché de l'art occidental. On pense à Hirst en particulier. Bon, ça veut dire que bien sûr, cet engouement des collectionneurs chinois pour l'art contemporain chinois participe de deux choses. D'une part, le fait d'être fier d'être chinois et d'acheter du patrimoine chinois, dût-il être contemporain, donc nationalisme culturel affiché clairement, et puis bien sûr une démarche purement spéculative, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup beaucoup d'argent autour de l'art contemporain chinois.
Et du coup, la globalisation du marché de l'art a fait exclusivement le jeu de la Chine, parce que c'est elle qui a profité de la crise financière jusqu'à être maintenant leader du marché international de l'art.
Oui, les meilleures des ventes se sont faites en Chine, pour Christie's ou Sotheby's, incontestablement. Oui, il y a un engouement parce qu'il y a aussi un pouvoir d'achat qui s'est démultiplié. Comme vous le savez, je suis aussi co-rédacteur en chef de la revue Monde Chinois Nouvelle Asie et nous sortons au début du mois d'avril un numéro entier consacré au luxe en Chine. Et l'on a pu, à travers des contributions tout à fait exceptionnelles de gens travaillant pour les grandes marques françaises, analyser un très grand nombre de phénomènes, acculturation, réappropriation des formes, invention ou réinvention de certaines marques, transfert également de technologies, questions liées à la propriété intellectuelle, mais aussi études des consommateurs du luxe chinois. On a défini deux choses. La première, c'est que ce sont des consommateurs jeunes, extrêmement jeunes, entre 35 et 45 ans, qui ont un pouvoir d'achat tout à fait considérable, qui dépasse parfois et de loin les plus riches des consommateurs du luxe en Occident qui, eux, avoisinent la tranche d'âge des 75 et plus. Bon, et puis le second facteur, l'on constate que c'est une clientèle essentiellement masculine et qui achète les grandes marques pourtant présentes en Chine, non pas en Chine, mais à l'occasion de voyages à l'étranger. Donc c'est très très intéressant parce que l'on voit aussi que cette clientèle s'éduque considérablement. D'ailleurs, se livre à des formations dans le domaine de la consommation des vins, que sais-je encore, etc. Et il y a là toute une autre économie du marché du luxe et de l'art qui se développe en Chine et qui montre effectivement que dans ce domaine-là encore, du fait de l'extraordinaire croissance, pourtant marginale dans la société chinoise, mais suffisamment importante d'un point de vue de son pouvoir d'achat et de son impact, d'une clientèle de gens riches, eh bien, on voit que cette clientèle impose peu à peu ses normes à l'ensemble du monde et à l'Occident en particulier.
Eh bien, donc je retiens que le marché de l'art et le marché du luxe sont liés, en Chine en tout cas. Emmanuel Linco, merci.